Je m'appelle Quentin, je suis pasteur en formation ici à l'Église du Plateau et c'est moi qui ai le privilège de vous apporter l'enseignement sur la parole de Dieu ce matin. Donc, en commençant, parce que là, j'ai mon imprimante a lâché, donc je vais faire ça avec mon ordi, donc je vais juste prendre 2 minutes pour enlever la veille de l'ordi. Ce sera pas long. OK. Donc, on est dans une série qui s'appelle Deutéronome. Deutéronome, c'est un livre de la Bible qui est dans les 5 premiers livres qui ont été écrits par Moïse dans l'Ancien Testament. Le titre s'intitule « Pratiquer la justice, prêcher la grâce ». Donc, je vous avertis ce matin, on va être un petit peu plus concentré sur « pratiquer la justice ». Ça ne veut pas dire que c'est pas important de prêcher la grâce. D'ailleurs, on va en parler. Ça ne veut pas dire que je suis légaliste. Ça veut juste dire que c'est sur cet aspect-là que le texte met clairement l'emphase de ce matin dans cette partie-là du livre. Donc, on va parler de qu'est-ce que c'est pratiquer la justice. Donc, Deutéronome, c'est un livre de loi écrit pour un autre peuple, dans une autre langue. Il y a beaucoup d'époques de cela. Donc, en commençant, je vais lire le texte et juste vous expliquer certains petits détails pour que vous compreniez un peu l'esprit dans lequel ça a été écrit. Sinon, ça peut être du chinois. Donc, lisons ensemble, c'est une partie de Deutéronome 14, 15 et 16. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu as obtenus durant cette 3e année et tu la déposeras dans la ville. Alors le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans la ville, viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, en commençant, tous les 3 ans, tu devais donner ta dîme. La dîme, c'était 10%, un dixième des biens, des récoltes, des nouvelles choses que tu avais accumulées cette année. Tu les prenais, tu les mettais à part et tu les donnais à l'Éternel. Tu les donnais au temple et ensuite, c'était administré de différentes manières. Ça, c'était toutes les années. Une fois tous les 3 ans, tu prenais toutes ces ressources-là, donc il y avait peut-être de l'argent, il y avait peut-être de la nourriture, du blé, de la viande, des choses comme ça. Ils s'étaient mis à disposition des pauvres dans la ville et des Lévites. Les Lévites, c'était une des 12 tribus d'Israël qui ne s'étaient fait pas attribuer de terre et ils étaient dispersés dans toutes les autres tribus et ils faisaient le rôle de pasteur un peu, si on peut dire, à travers tout Israël. Donc, puisqu'ils n'avaient aucune possession, ils dépendaient de l'aide des autres tribus. Maintenant, est-ce que les pauvres mangeaient seulement tous les 3 ans? Non. il semble que ce processus-là se faisait à relais. Donc, dans la ville, les différentes personnes qui habitaient là, chacun un tour de rôle, il y avait comme des rôles qui étaient inscrits et on couvrait tout se calculait sur 7 années. Donc, on couvrait les 7 années du cycle qu'on reproduisait tout le temps, de manière à s'assurer que il y a un apport constant de nourriture. Mais c'était chacun son tour, tous les 3 ans, là, on faisait ces dons-là. Donc, les offrandes, d'une manière générale, pas seulement tous les 3 ans, mais même les offrandes que tu donnais toutes les années, on a cette vision-là assez facile aujourd'hui de se dire « Ah, c'est de la religion, ils ramassent de l'argent pour s'en mettre plein les poches, ils veulent juste piler de l'or, tu sais, dans leur coffre et tout ça. » C'était absolument pas l'esprit des offrandes qui sont faites dans tout l'Ancien Testament. On voit dans les lois que la plupart des offrandes, la grande partie servait à nourrir des gens. Donc, nourrir des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers et les Lévites qui, eux, s'occupaient de travailler. Donc, puisqu'ils n'avaient pas le temps pour exploiter les terres et qu'ils n'avaient pas de terre de toute façon et qu'ils s'occupaient à travailler pour le peuple, bien, on les nourrissait. Donc, on n'est pas dans un esprit de juste on accumule pour le... un peu comme on peut voir aujourd'hui dans certaines religions, le Vatican, on sait à quel point il y a une accumulation de richesses qui est honteuse, mais les richesses-là dans l'Ancien Testament étaient données souvent dans un but d'aider. Maintenant, il y avait aussi une partie qui servait à la construction du temple, à l'entretien des ustensiles, tout ça, à des objets d'or, etc. Mais c'était pas juste de l'accumulation juste pour ça. Ensuite, on continue. Tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contraintes à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton compatriote. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris. L'Éternel, ton Dieu, te bénira. Comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Donc, deuxième chose, les 7 ans. Tous les 7 ans, il y avait la remise des dettes. Donc, comment ça fonctionnait? Cette année-là, tous les 7 ans, c'était une année qui, elle, était fixe. Donc, ça ne changeait pas. C'était la même année pour tout le monde et c'était toujours au même moment. Dans la société, vous le savez, on peut emprunter des fois, soit pour développer une entreprise, soit parce qu'on est mal pris et qu'on n'a pas suffisamment pour subsister. Donc, de manière temporaire, éventuellement, on va emprunter une somme d'argent ou des biens à quelqu'un pour garantir notre subsistance ou pouvoir développer. En échange de ça, on n'était pas encore tout à fait dans un système monétaire comme on le connaît aujourd'hui. C'est comme un mélange un peu de troc. Donc, quand quelqu'un devait emprunter... Souvent, c'était des personnes pauvres. La personne qui prêtait en échange prenait une possession de l'emprunteur et elle allait capitaliser là-dessus. Donc, par exemple, Jérémy a beaucoup d'argent, moi, j'ai plus d'argent. J'ai des terres, mais j'ai pas de bœuf pour tirer la charrue. Ben, j'allais emprunter de l'argent pour acheter des bœufs. En échange, Jérémy allait prendre des possessions à moi, par exemple mes ânes ou mes chevaux. Il va les faire reproduire, puis prendre les petits, puis les vendre, etc. Et tant que je n'ai pas payé ma dette, c'est lui qui garde mes affaires. Donc, ça fait que éventuellement, une personne pouvait devenir coincée dans ce système-là. Parce qu'elle n'avait plus suffisamment de ressources en sa possession pour capitaliser, etc., et rembourser. Et c'était un peu un cercle vicieux parfois. Donc, Dieu avait prévu quelque chose pour protéger les gens de la pauvreté. Et tous les 7 ans, les créanciers devaient redonner les biens qu'ils avaient pris en gage. Donc, la dette n'était pas annulée, mais le gage était rendu. Donc, même si ça faisait 6 mois que tu l'as prêté et que tu as pris le gage en échange, si les 7 ans sont sonnés, tu redonnes le bien. Et c'est pour ça qu'on va entendre, on va voir ce qu'on lit ensuite. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main, tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année, l'année de remise des dettes, approche. Et merde. Il me demande l'argent, puis il reste juste 1 an. Fait genre juste 1 an pour profiter des biens que je vais lui prendre en gage. Puis souvent, les gens allaient être tentés de ne pas prêter dans ce cas-là, de ne pas porter secours à la personne qui est dans le besoin parce qu'il reste juste 1 an avant la remise des dettes et ils n'ont pas assez de temps pour vraiment faire beaucoup d'argent sur ce qui leur a été prêté. Donc, Dieu demandait Dieu demandait une générosité qui était gratuite. Ça pouvait vraiment ne rien te rapporter. Mais ton devoir, c'était de venir en aide aux pauvres et de ne pas fermer ton cœur à celui qui te demande de l'aide. Ça remet un petit peu en contexte. Vous comprenez un peu la dynamique. C'est un peu technique, mais c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir comprendre la suite. Et on va, après ça, on va partir de là pour avancer dans le message. Je finis. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ce pays. C'est drôle parce que au verset 4, il vient de dire « Il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira. » Et puis là, il dit, ensuite, au verset 7, il dit « S'il y a chez toi des frères, mais je croyais qu'il n'allait pas avoir de pauvres, mais s'il y a chez toi parmi tes frères et dans l'une des villes un pauvre. » Et ensuite, au verset 11, il dit « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. » Question, est-ce que la Bible se contredit? C'est vraiment en apparence, parce que déjà, quelqu'un de moindrement intelligent, s'il construisait quelque chose, contredirait pas une phrase de l'autre. Secondo, c'est pas comme si le texte dit des choses différentes. Il est dit, mais c'est pour faire ressortir des aspects. Donc, la première fois, quand Dieu dit « Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Il a dit « Pourvu que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ses commandements. » Il est en train de dépeindre une utopie. Il est en train de dire « Dans le meilleur des mondes, si vous faites ça, vous n'aurez pas de pauvres. Vous allez prévenir la pauvreté dans le pays. » Donc, c'est comme il te dépeint le portrait de à quoi ressemblerait le monde si on faisait tout ça. Mais en même temps, il dépeint un portrait réaliste aussi. Donc, il nous propulse avec l'espoir, avec la volonté, avec le désir de voir ce monde-là arriver, mais il nous rappelle que tant que ce monde va être déchu comme il est, il y aura toujours des pauvres et on n'arrivera jamais à bout. Donc, c'est optimiste-réaliste, optimiste-réaliste. Et le message, je l'ai intitulé « Pratiquer la justice ». Le cœur tendre, la main ouverte. Pratiquer la justice, le cœur tendre, la main ouverte. Et finalement, ensuite, il parle d'instituer des juges et il dit d'appliquer la justice pour la justice, de ne pas recevoir des pots de vin, de ne pas faire de discrimination, de ne pas être influencé dans tes jugements parce qu'on t'offre des choses ou parce que quelqu'un est riche ou parce qu'il est pauvre. Il dit qu'il faut appliquer la justice pour la justice. Donc, deux points ce matin, je vous déstabilise. Ce n'est pas un message chrétien, juste deux points au lieu de trois. La justice pour adorer. Donc, je vous ai dit que oui, on allait mettre une certaine emphase sur pratiquer la justice, mais la pratique de la justice, autant dans le Nouveau Testament que dans le Nouveau Testament, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, est toujours ancrée dans l'adoration et dans la grâce qui a d'abord été donnée par Dieu. Dans Deutéronome, cette justice extrêmement généreuse qui était exigée de la part du peuple juif, elle était ancrée dans ce que Dieu venait de faire pour eux. Au verset 15:2, on voit « Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain, etc. » Mais la remise des dettes, c'est quoi? C'est en l'honneur de l'Éternel. C'est un peu spécial de concevoir la justice comme ça. On a tendance à voir la justice comme quelque chose d'écrit. C'est un livre, c'est un code de loi, et il faut l'appliquer. C'est aussi simple que ça. C'est un peu froid, un peu pas très pas plus intelligent que ça, tu sais. C'est un peu notre réflexe. Ah, ben la loi dit ça, donc je le fais. Mais la Bible nous dit dans le Deutéronome que la justice devait être appliquée en l'honneur de l'Éternel. Et on voit ça dans tout le texte, il répète tout le temps. Il te dit de faire quelque chose et il dit, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu est toujours en train de rappeler que tu dois faire ça. Pourquoi? Parce que tu as reçu de Dieu ce que tu possèdes. On voit ça ailleurs dans le livre de Deutéronome et dans tout le Lévitique. Par exemple, Deutéronome 8, il dit « Lorsque tu mangeras, que tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. » Donc, tu appliques la justice parce que tu as déjà reçu. Tu es bon parce que quelqu'un a été bon envers toi. Et la version du Nouveau Testament de ce verset-là, c'est quand Paul, dans le Nouveau Testament, il dit, « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? » Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je vous pose la question. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Tout. Même le travail que tu fais, tu le fais à cause de facultés que tu as reçues. Tu es en santé physiquement, mentalement, tu as des aptitudes, des facultés intellectuelles, tout ce qui te permet de produire et d'obtenir le moindre gain, tu l'as à l'origine de quelque chose que tu as reçu. Et ça nous met tous sur le même plancher. Donc la justice envers les pauvres, tu l'appliques parce que toi-même, tu as été pauvre d'une certaine manière. Tu n'es pas... Tu n'es pas le créateur de ce qui t'appartient. Donc, la justice pour adorer. C'est un peu extrême, je pense, mais la Bible est quelque chose d'extrême, que Dieu exige... que tu fasses, il t'exige non seulement de faire quelque chose de bien, mais il t'exige de le faire avec un bon cœur. Ça va déjà arriver, les parents, tu dis à ton enfant, je sais pas, il se lève de table, il est fâché parce que tu l'as grondé, puis là, il fait par exprès de renverser quelque chose par terre. Puis là, tu lui dis, ramasse-le. Puis là, il est fâché, il le prend, puis il le pose sur la table vraiment fort. Puis tu dis, non, recommence. Parce que tu veux voir de lui la volonté, tu comprends? Ce qui compte pour toi, c'est pas juste qu'il ramasse l'assiette, c'est de voir un changement dans son attitude. Et là, tu veux lui faire recommencer. Ma mère faisait ça des fois quand j'étais petit. Non, recommence. Puis là, tant que j'étais très colérique, je donnais des coups de poing dans les portes, puis tout ça, puis tant que j'avais pas fait calmement, elle me disait, tu recommences. Elle dit, parce que ce qu'elle voulait, c'était mon attitude de cœur. Et c'est ce que Dieu nous demande dans ce passage-là. Il dit, s'il y a chez toi parmi tes frères et dans l'une de tes villes un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu vas lui ouvrir la main et tu lui prêteras de quoi pour voir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, nanana, la septième année arrive, etc. Donc, non seulement il te demande de le faire, mais il te demande de le faire de bon cœur. Parce que Dieu se soucie de ce qu'il y a à l'intérieur avant ce qu'il y a à l'extérieur. Le verset très connu qui dit, « L'Éternel regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. » Dieu voit le cœur, et c'est ça qui compte le plus pour lui, c'est que dans ton âme même, tu fasses les choses avec la volonté. Et puis, je, Ouais, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est vraiment une mentalité dans notre monde, souvent, de faire les choses juste pour être légal, tu sais. On s'en fout d'être moral, on veut être légal, tu sais. J'ai vu ça beaucoup quand je travaillais comme infirmier dans les milieux pour les personnes handicapées. C'est des gens qui sont tellement vulnérables, les handicapés intellectuels, puis beaucoup... malheureusement, je ne sais pas tout le monde le fait, mais souvent, souvent, ce qu'on voyait dans les propriétaires des maisons d'accueil ou des ressources d'hébergement pour ces personnes-là, leur but, c'était vraiment juste d'être légal. Ils voulaient réussir à donner le minimum que la loi exige pour la personne handicapée en échange du maximum de revenus qu'ils pouvaient tirer pour tirer un bénéfice important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines difficultés dans l'exploitation de ces ressources-là, mais c'est malheureux de voir cet esprit-là. T'sais. Et souvent, finalement, ce qui comptait, ce n'était pas tellement le bénéfice du pauvre, de l'handicapé intellectuel dans cette condition-là, mais vraiment son propre bénéfice. Donc, ils appliquaient une forme de justice sociale, mais en fait, complètement tournée sur eux-mêmes. Et on voit ça dans tellement d'aspects de la société. T'sais, nos procès qui sont souvent un peu entourloupés, puis on a trouvé une passe-passe légale pour justifier un grand criminel que tout le monde sait très bien qui a fait ce qu'il a fait, mais on n'est plus dans l'esprit, tu sais. Mais Dieu, lui, il veut l'esprit de la loi et non seulement la lettre de la loi. Et c'est ce que Jésus a dit à répétition. Pratiquer la justice, le cœur tendre, la main ouverte. Pas juste la main ouverte, mais le cœur tendre. Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu, il demande de toi pas seulement les actions, mais le cœur. Il demande de toi pas seulement le cœur, mais les actions. La vraie adoration, elle va se transposer dans l'exercice de la justice, dans la réalité. Et cette justice, elle est enracinée dans l'adoration. Oui, ça vient d'abord de ce que Dieu a fait pour toi, mais nécessairement, la vraie justice se transpose, la vraie adoration se transpose dans une justice, dans la réalité. De la même manière que Dieu avait libéré les Juifs d'Égypte, Dieu nous a libérés du péché. Et l'Égypte était pour les Juifs ce que le péché est pour les chrétiens. En tant que croyants, le Nouveau Testament nous appelle à une foule de bonnes œuvres, à des exigences extrêmement élevées dans notre bonté à démontrer envers les autres, envers le monde qui nous entoure, etc. Mais toujours, comme c'était le cas dans le Pentateuque, où Dieu rappelait toujours « Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parce que je suis l'Éternel qui t'a libéré de l'esclavage. Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et il répète tout le temps « Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » Et de la même manière, en tant que chrétien aujourd'hui, parce que Dieu nous a libérés du péché par la mort et la résurrection de Christ à la croix, parce que Dieu lui-même a d'abord pourvu la justice pour nous, on est appelé à appliquer la justice à notre tour. La justice sociale est un baromètre pour la spiritualité authentique de l'Église. Je ne dis pas que toutes les églises qui font de la justice sociale sont forcément des enfants de Dieu. Je crois pertinemment qu'il y a des gens qui pratiquent toutes sortes de bonnes œuvres, mais qui ont un message complètement perverti de l'Évangile qui amène les gens à la perdition. Mais il ne peut pas y avoir de la justice sociale. Il peut y avoir de la justice sociale sans réelle adoration, mais il ne peut pas y avoir de réelle adoration sans justice. Comprenez? Donc, c'est possible de pratiquer les œuvres, mais de ne pas avoir le cœur. Mais c'est impossible d'avoir le cœur sans avoir les œuvres. Je sais que ça dérange plusieurs personnes parce qu'on est malheureusement trop habitué à une culture d'Église qui a mis énormément d'accent sur la connaissance et très peu sur l'obéissance. Mais la maturité d'un chrétien, elle ne se mesure pas à sa connaissance uniquement, mais principalement à son obéissance. Tu peux savoir 1000 choses et ne pas y obéir, et tu serais mieux d'en savoir qu'une seule et de la mettre en pratique. Et ça dérange, mais c'est pourtant ce que Jésus nous a dit avec beaucoup de clarté dans des passages comme Matthieu 25. Et c'est un passage qui décape, je le sais, mais Jésus l'a dit. Okay? Donc, je vais le lire pour vous. Matthieu 25. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. » Donc, il y a un grand jugement à la fin des temps, que la Bible dit, et Christ va juger. « Et le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Les justes lui diront, « Seigneur, quand avons-nous fait toutes ces choses? » Et le roi leur répondra, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. » Et ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, et là, il les chasse et il les maudit, et il redit la même chose. À l'inverse, il dit, « J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité, etc., etc. » Et là, ils disent, « Oui, mais Dieu, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, être malade, etc. » Et il dit, « Chaque fois que vous avez vu le plus petit d'entre nous, et que vous lui avez être malade, etc., et vous ne l'avez pas aidé, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Donc, la Bible est extrêmement sévère sur l'application de la justice et elle le montre comme un baromètre pour la santé spirituelle, pour l'authentique spiritualité de l'Église. Je vous raconte une petite anecdote. Je suis allé au Texas il y a plusieurs années, j'avais 19 ans, j'étais jeune, insouciant, j'avais la foi. Je suis parti pour une conférence, j'avais un sentiment profond que Dieu m'appelait à aller à cette conférence-là. Donc, j'ai pris un billet d'autobus pour aller au Texas, mais je n'avais pas assez d'argent pour aller jusqu'au bout. Et je n'avais pas de place où dormir et je suis parti un peu... follement. Et j'ai dépensé tout l'argent que j'avais pour manger sur la route de l'aller parce que ça coûtait pas mal plus cher que je pensais dans les stations d'autobus. Donc, je suis arrivé à Houston et là, j'avais encore une heure de route à faire pour aller à Clear Lake, qui est plus au sud encore. Et là, il ne me restait plus assez d'argent pour un autobus voyageur, donc j'ai pris un autobus de ville. J'ai mal compris les indications et je me suis retrouvé dans un quartier peu recommandable, tout seul, de blanc, avec mon petit sac. Et là, j'avais plus rien, rien du tout, du tout, du tout. Ma mère, elle était morte de peur. Donc, j'ai fait la seule chose qui me restait à faire, plus d'argent, plus de nourriture, plus d'autobus. J'ai fait du pouce. Et par la providence de Dieu, la première personne qui est passée sur ma route, c'était un médecin et pasteur qui habitait juste à côté de l'église où se tenait la conférence où je me rendais, à une heure de là. Et on embarque, il me ramasse, puis là, on jase un petit peu, tout ça, il me demande « qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je dis « je vais à Clear Lake », tout ça. Ah, il dit « à quelle église? » Ben, je dis « à Clear Lake Community Church », puis là, il dit « ah, j'habite juste à côté ». Il habitait vraiment à côté, à quelques pas de l'église. Et il dit, fait que là, il me demande, t'es à quel hôtel tu vas? Ben, j'ai pas d'hôtel. Ah ouais, à quel, tu dors chez des gens? Ah non, j'ai pas de gens. J'ai rien, tu sais. J'ai une semaine à faire dans un banc de parc. Fait que là, il dit, ben, viens chez nous. Fait que là, il m'a invité chez eux. Ils m'ont hébergé toute la semaine. C'était d'une générosité incroyable. Ils m'avaient donné les clés de leur Jeep que je n'ai pas utilisé parce que j'avais peur de ne pas être assuré si j'avais un accident. Donc, ils m'ont donné un vélo, tout ça. Ils ont pris soin de moi. Ils m'ont emmené au restaurant tous les jours. C'était d'une générosité inouïe. pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Et j'étais dans l'autobus presque sans arrêt depuis 72 heures quand il m'a ramassé sur le bord de la route. Je ne vous dis pas comment je sentais, c'était épouvantable. En plein été, pas climatisé, c'est les vieux autobus Greyhound aux États-Unis. Je vous raconte ça pourquoi. Parce que quand je suis revenu, et j'ai raconté tout ça à ma mère les a remerciés. Je pense qu'elle leur a écrit une carte comme si c'est elle qu'ils avaient hébergée. Elle était... Parce que je suis son fils, elle tient à moi, elle avait peur pour moi, etc. Et que des gens fassent ça pour elle, c'est comme si... Fassent ça pour moi, c'est comme s'ils le faisaient pour elle. Et c'est dans cet esprit-là que Christ nous dit, à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vice-versa. À chaque fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et la Bible nous dit qu'on est tous créés à l'image de Dieu. Et jusqu'à un certain point, Dieu est offensé à chaque fois qu'on porte atteinte ou qu'on omet de faire le bien à l'une de ses créatures qui est faite à son image. Parce qu'on porte son honneur. Donc, pratiquer la justice, le cœur tendre, et la main ouverte. Donc, on a parlé de la justice pour adorer. Et là, je vais vous parler de la justice pour recevoir. Pratiquer la justice à la main ouverte pour recevoir. La justice, parfois, ne nous attire pas, je pense aujourd'hui, parce qu'on a créé une certaine déconnexion un peu trop importante entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On n'ose pas parler de l'obéissance ni des récompenses et des bienfaits qui se rattachent directement parce qu'on a tellement peur que quelqu'un croit qu'il est sauvé par les œuvres. On est comme tellement marqué par, surtout au Québec, par un catholicisme qui a mis un accent épouvantable sur les œuvres, et t'es toujours dans la crainte de devoir faire des choses pour que Dieu te sauve, puis etc. Et là, tu peux perdre ton salut si tu fais quelque chose de trop mal ou si tu fais pas quelque chose de bien, etc. T'es excommunié si t'as pas assez d'enfants, nanana. Je comprends cette crainte-là. Mais il faut être prudent de pas faire abstraction de réalité et de vérité de l'Évangile qui sont présentées dans la parole. De la même manière que les Juifs ont été libérés d'Égypte et que pour cette raison-là, ils devaient, en adoration à l'Éternel, pratiquer la justice, nous, on doit le faire parce que Christ est mort pour nous. Maintenant, de la même manière que Dieu leur promettait des récompenses en plus du pays dans lequel ils habitaient déjà, Dieu leur promettait des récompenses parce qu'ils pratiquaient la justice. Et avec les chrétiens, c'est la même chose. Oui, tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais par la foi, à cause de l'œuvre que Dieu a faite. Mais maintenant que tu es sauvé dans le pays, dans cette assurance-là de la vie éternelle et d'être un enfant de Dieu, Dieu t'appelle à pratiquer la justice et à faire les bonnes œuvres. Et Dieu te donne des récompenses pour ça. Je ne dis pas que tu es sauvé par les œuvres, et je ne dis pas que la récompense de la vie éternelle, Dieu te la donne parce que tu as fait des œuvres, mais il y a clairement des bénédictions qui sont rattachées directement à l'obéissance dans la parole de Dieu, dans la pratique de la justice et du bien. On le voit dans le texte, il dit « Ainsi l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Et il répète ça tout le temps. « L'Éternel te bénira comme il te l'a dit, si tu mets en pratique. » Si. Donc fais ces choses et il y a des bénédictions qui vont déverser sur toi. Et on va voir rapidement deux sortes de bénédictions. Il y a les bénédictions spirituelles. Par exemple, Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça vous est tous déjà arrivé? Vous venez en aide à quelqu'un qui en a vraiment besoin en faisant quelque chose de vraiment généreux. Vous savez ce bienfait qu'on ressent? Ce bien-être d'avoir fait ce qu'on sait qu'on devait faire. Ça nous exalte, ça nous honore à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le genre de bénédiction spirituelle que Dieu nous promet quand on met en pratique la justice et le bien. Et il y en a toutes sortes d'autres, et je ne pourrais pas passer au travers, mais la Bible nous dit qu'on est béni spirituellement en tout temps quand on pratique la justice. Et au niveau matériel aussi, la Bible nous enseigne ce qu'on appelle... C'est des principes généraux. Donc, Dieu ne dit pas, à chaque fois que tu vas faire un chèque, puis il y a des échelles de générosité, puis chaque fois que tu fais un don à la Croix-Rouge, bien, en échange, Dieu te donne tant de piastres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais la Bible enseigne qu'il y a des principes généraux, que lorsqu'on les met en pratique, il y a une bénédiction générale qui revient. Et c'est un peu normal. À force, par exemple, si une masse critique de personnes dans une population donnée pratique une générosité importante, naturellement, il va y avoir un retour pour l'ensemble de cette population-là. Et c'est des principes généraux que la Bible nous enseigne. Il y a un bienfait général et il y a aussi une bénédiction spécifique que parfois Dieu te donne. Il te récompense, il est honoré, il est plu par ce que tu as fait et il te bénit en échange. Mais parfois non. Mais ultimement, dans la vie éternelle, on aura tous ces bénédictions-là en abondance pour l'éternité. Vous connaissez la prière de Saint François d'Assise? C'est pas lui qui l'a écrite, en fait. J'ai appris ça cette semaine. C'est un prêtre dans le début des années 1900, mais on a faussement cru que c'était François d'Assise qui l'avait écrite parce qu'il l'avait publiée à l'endos d'un portrait de Saint François d'Assise. Il dit « Car c'est en donnant, à la fin, il dit « Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. » Il y a cette idée-là de donner et de recevoir, de pratiquer la justice pour recevoir. Ce n'est pas ta première motivation. La première motivation est ancrée dans l'adoration. Mais ultimement, c'est ce que Dieu fait. Et à l'inverse aussi, quand tu pratiques l'injustice, il y a malheureusement des conséquences qui s'appliquent pour ça. Donc, en terminant, est-ce que je ne suis pas sauvé parce que je ne fais pas 20 heures de bénévolat par semaine? Non, ce n'est pas ça que je dis. La première chose à explorer, ce n'est pas tes actions, mais ton attitude de cœur. Comment est-ce que tu réagis quand quelqu'un te demande de l'aide? Et si tu réagis en rechignant dans ton cœur, comme Dieu te dit de ne pas faire, en espérant trouver un moyen de ne pas donner parce que ça ne te rapporte pas grand-chose, est-ce que peut-être tu as oublié, comme Brian nous a parlé la semaine passée, de ne pas oublier l'œuvre de Dieu? Est-ce que ton manque d'adoration provient d'un oubli de ce que Dieu a fait pour toi et de pourquoi tu as tout ce que tu as? Tu pourras juger le pauvre et le misérable le jour où tu pourras te vanter d'avoir tous les mérites, d'avoir gagné la course des 50 millions de spermatozoïdes qui sont arrivés pour te faire. Ça a l'air niaiseux, mais c'est littéralement ça. Le jour où tu pourras te glorifier d'avoir reçu, d'avoir fait tout ce que tu as et d'être à l'origine de ta propre existence, tu pourras mépriser le pauvre. Mais d'ici là, Dieu t'appelle à pratiquer la justice. Le cœur tendre, la main ouverte. Je finis avec un passage de Jean qui résume clairement tout ça. « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il être en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Pratiquez la justice, le cœur tendre, la main ouverte. Merci.